Littérature sans frontières, une chronique de Fréquence Terre, Pierre Guelf.
Durant des décennies, dans des articles, ouvrages, émissions radio-télévisées, conférences, j'ai évoqué la cathédrale Notre-Dame de Paris, plus spécifiquement le remarquable chef-d'œuvre que nous transmirent les compagnons bâtisseurs ou francs-maçons opératifs, exceptionnels artisans du Moyen-Âge. Construite à dessein sur un lieu telluriquement fort, elle était à l'image de leur devise « La main est le prolongement de l'esprit ». En faisant remarquer que le flot de visiteurs était dirigé à contresens des énergies, celui des aiguilles d'une montre, je soulignais aussi que plein de messages des imagiers moyenâgeux étaient taillés à l'extérieur de l'édifice et échappaient au circuit touristique balisé. Ainsi, la toute petite représentation allégorique de la connaissance au bas du trumeau central, où une dame assise, les cheveux à l'horizontale, signifiant les ondes telluriques, tenant deux livres, un fermé représentant l'exotérisme, un autre ouvert signifiant l'ésotérisme, partie de la philosophie inconnue des profanes, une échelle à 9 barreaux posée sur sa poitrine, 9 étant le nombre de la connaissance, cette petite sculpture donc était un subtil message indiquant que l'on se trouvait sur un lieu fort, qu'après avoir assimilé les notions des deux ouvrages et gravi les échelons, la connaissance était au bout du chemin initiatique. Il y avait aussi le souvenir des Templiers où le procès inique se tint sur le parvis, où les bâtisseurs arrêtèrent l'édification des tours par solidarité avec ses suppliciés par le pouvoir royal, avec la bénédiction papale. Également le « ça ira » de la Révolution, et puis Victor Hugo, Quasimodo, Esmeralda. L'écrivain qui avait magnifié cette cathédrale avait, en visionnaire, décrit l'incendie de chef-d'œuvre dans Notre-Dame de Paris. Tous les yeux étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles. Une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Au-dessous de cette flamme, au-dessous de la sombre balustrade, à trèfle de braise, deux gouttières en gueule de monstre vomissaient sans relâche cette pluie ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade inférieure. À mesure qu'ils approchaient du sol, les deux jets de plomb liquide s'élargissaient en gerbes comme l'eau qui jaillit des 1000 trous de l'arrosoir. Reçus au-dessus de la flamme, les énormes tours de chacune d'elles, on voyait deux faces crues et tranchées. L'une toute noire, l'autre toute rouge, semblait plus grande encore de toute l'immensité de l'ombre qu'elle projetait jusque dans le ciel. Leurs innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient un aspect lugubre. La clarté inquiète de la flamme les faisait remuer à l'œil. Il y avait des guivres qui avaient l'air de rire, des gargouilles qu'on croyait encore japper, des salamandres qui soufflaient dans le feu, des tarasques qui éternuaient dans la fumée. Et parmi ces monstres, ainsi réveillés de leur sommeil de pierre par cette flamme, par ce bruit, il y en avait un qui marchait et qu'on voyait de temps en temps passer sur le front ardent du bûcher comme une chauve-souris devant une chandelle. En ce 15 avril 2019, la réalité dépassa la fiction, mais place à présent à la reconstruction-restauration grâce à la maîtrise des compagnons bâtisseurs et artisans contemporains, dignes successeurs de leurs collègues d'il y a 7 à 900 ans.
Pierre Guelf, retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site